السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله تعالى في cette soirée du mercredi 18 ربيع الآخر 1435 de l'Hégire, correspondant au 19 février 2014 بإذن الله تعالى. Donc avec le 38e cours du cours du livre Le dogme du monothéisme de Fawzan. حفظه الله تعالى الشيخ فوزان حفظه الله تعالى. Donc le titre d'aujourd'hui inshallah ta'ala c'est le chapitre. Aujourd'hui inshallah ta'ala c'est le cinquième chapitre. Ce que l'on doit croire à l'égard du messager alayhi salatu salam, de sa famille et de ses compagnons. Ce que l'on doit attester à l'égard du messager alayhi salatu salam, de sa famille et de ses compagnons. Ça c'est le cinquième chapitre. Ensuite il y a six sous-chapitres. Donc le premier sous-chapitre, inshallah ta'ala, le premier sous-chapitre, l'obligation d'aimer le messager alayhi salam et de l'honorer, l'interdiction d'exagérer dans son éloge et la mise en évidence de son statut. Donc vous avez bien remarqué que dans ce cinquième chapitre il y a au-dessous de lui six sous-chapitres. Dans ce cinquième chapitre, il y a sous ou au-dessous de lui six sous-chapitres. Ça, c'est le premier sous-chapitre. L'obligation d'aimer le messager, alayhi salam. Je répète, l'obligation d'aimer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et de l'honorer. Ainsi que l'interdiction d'exagérer dans son éloge et la mise en évidence de son statut. Donc, vous remarquez que le premier sous-chapitre va contenir trois cours. Le premier cours, l'obligation d'aimer le messager alayhi salam et de l'honorer. Le deuxième cours, l'interdiction d'exagérer dans son éloge. Troisième cours, la mise en évidence de son statut. Donc aujourd'hui, inshallah ta'ala, c'est le premier cours. C'est l'obligation d'aimer le messager alayhi salam et de l'honorer. Cheikh Fawzan Hafidahullah dit il incombe premièrement à tout musulman d'aimer Allah Azza wa Jal, ce qui est considéré comme l'une des catégories les plus sublimes de l'adoration. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ والذين امنوا اشد حبا لله. البقره 165. Parmi les hommes il en est qui prennent en dehors d'Allah Azza wa Jal des égaux à lui en les aimant comme on aime Allah subhanahu wa ta'ala. Or les croyants sont les plus ardents dans l'amour d'Allah. Donc le croyant non seulement il aime Allah subhanahu wa ta'ala mais il est des plus ardents dans l'amour d'Allah Azza wa Jal. Cheikh dit car c'est lui le Seigneur qui comble ses serviteurs de toutes sortes de bienfaits, tant apparents que cachés. Ensuite, il est du devoir du musulman d'aimer son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car c'est lui qui a appelé à Allah, qui nous a informés à son sujet, a transmis sa sharia et expliqué ses commandements. Donc, tout croyant doit à l'envoyé, alayhi salatu salam, le bien qu'il acquiert dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et nul n'entrera au paradis si ce n'est par son obéissance et en le suivant. Donc je redis, il est du devoir du musulman d'aimer son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car c'est lui qui a appelé Allah, nous a informé à son sujet et a transmis sa sharia et expliqué ses commandements. S'il n'y avait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on serait tous dans l'égarement. Naam, on serait tous dans l'égarement. Naam, et on est de la part d'Allah azzawajal, les personnes ne seraient là pour et nous informer. Il a dit, donc tout croyant doit à l'envoyé alayhi sallam le bien qu'il acquiert dans ce bon monde, ce bas monde et dans l'au-delà. Et nul n'entrera au paradis si ce n'est par son nom et en le suivant. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme disent les savants, il est mieux que notre père. Il est mieux que notre père. C'est le père des croyants lui aussi, comme ses épouses sont les mères des croyantes. Pourquoi il est mieux que notre père? Comme on l'a dit plusieurs fois, car nos pères, au maximum, ils nous donnent le bas monde. Nos pères, au maximum, ils nous donnent le bas monde, tout ce que c'est possible de donner dans le bas monde, s'ils sont riches. Donc, le maximum, qu'est-ce qu'il fait de toi, ton père? Il fait de toi, yani, une vie que tu vives, une vie bestiale. Tu manges, tu bois, tu as assouvi tes passions et tu as tout. Tu as tous les plaisirs de cette vie. Mais il ne te donne pas l'au-delà. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, te donne quoi? Te donne les deux. Les deux, même s'il bat sur l'au-delà plus que ce bas monde, car ce bas monde, en fait, n'a été, disons, créé que pour être un pont pour l'au-delà. Et pas le contraire. Ce bas monde, c'est seulement un pont qu'on doit traverser pour aller dans l'au-delà. Al-Muhim, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique, il a dit, « Thalathatun man kunna fih wajada halawat l'iman, an yakun الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un rapporté par Bukhari et Muslim, trois qualités, quiconque les regroupera, goûtera la douceur de la foi. Le fait qu'Allah Azzawajal et son messager soient plus aimés pour toi que qui que ce soit d'autre. La deuxième qualité, que lorsque tu ne l'aimes que pour Allah Azzawajal. La troisième qualité, le fait que tu détestes de retourner à la mécréance après avoir été sauvé par Allah subhanahu wa ta'ala, comme tu détestes d'être jeté dans le feu. Rapporté par Bukhari ou Muslim. Donc, on prend de ce hadith quoi? Une ou deux choses. La première, les trois qualités. Quiconque les regroupera goûtera la douceur de la foi. Quand Ali Sallam, quand il a dit les trois qualités, il a cité le nombre trois. Par exemple, dans un autre hadith, il a dit, par exemple, Sab'atun sept personnes vont être sous l'ombre d'Allah. Il dit, par exemple, profite de cinq choses avant cinq. Et dans un autre hadith, il m'a été donné six choses qui n'ont pas été données à d'autres. Donc, il cite comme ça des nombres, 3, 4, 5, 6. Pourquoi? Pourquoi? Pour t'apprendre à résumer les choses, à leur donner comme ça des nombres pour te les rappeler. Naam. Si tu fais pas comme ça, naam, tu donnes pas des nombres à des choses, tu peux pas te rappeler. Non, je vais dire par exemple, profite de certaines choses avant d'autres. Et elles sont 6, et je te dis pas profite de 6, à fond de 5 avant 5 choses avant d'autres. Non, tu te rappelles pas comme ça du nombre. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas oublier. Mais maintenant, quand il te fixe un nombre, toujours tu te rappelles. Tu dis donc, il y a trois choses. Non. Pourquoi on dit comme ça? Parce que s'ils écrivent le fiqh, par exemple, le fiqh CA, ils disent par exemple les annulatifs, les annulatifs des ablutions sont de 12, par exemple. Certains disent, hey, c'est bidah, faut pas citer 12, C'est-à-dire qu'il ne faut pas citer un nom. Il y a les annulatifs et il faut les apprendre comme ça. Ce n'est pas la peine de dire il y en a 12. Ce n'est pas bien de mettre comme ça des chiffres. On leur dit le prophète lui-même mettait des nombres. Ouchbek, tu te trompes. Le prophète lui-même mettait des nombres. Et voilà le hadith qu'on a cité maintenant, trois. Il a dit trois. Trois qualités, trois choses. Quiconque les regroupa goûtera la douceur de la foi. La deuxième faïda qu'on peut prendre de ce hadith, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle la douceur de la foi. Et c'est quelque chose qui se goûte. Comme on goûte, par exemple, au miel. Ou bien on goûte à la confiture. Subhanallah. Quand on goûte au miel et à la confiture, on ressent. On ressent quelque chose de bien. À quel niveau? Au niveau de la langue. Au niveau de la langue. Et ensuite, au niveau du gosier, quand ça descend. Maintenant, c'est la vérité. Il a dit, quiconque les fait va goûter la douceur de la foi. C'est à quel niveau que tu goûtes cette douceur? Tu la goûtes dans ton cœur. Tu sens quelque chose dans ton cœur. Subhanallah l'adhim. Que tu donnes des milliards. Tu ne peux. Yani, quelqu'un donnerait des milliards, ne pourrait pas goûter cette chose. Pourquoi? C'est une lumière. Naam, qu'Allah Ta'ala descend du ciel sur ton cœur pour l'apaiser, pour le raffermir. Tu te sens le plus heureux en n'ayant rien. En n'ayant ni argent, ni voiture, ni travail, ni rien. Naam, tu te sens le plus heureux. Naam, pourquoi? Tu as goûté à la douceur de la foi. Et beaucoup de gens, n'arrivent pas à ce stade. N'arrivent pas à goûter à la douceur de la foi. Restent toujours comme les gens de la masse. Toujours, yani, tout juste, s'il prie, ensuite, il regroupe les prières, ensuite, en même temps, il prie, en même temps, il fait la zina, en même temps, il prie, en même temps, il fume la drogue. Il ressent jamais, il te dit, moi, yani, je trouve rien de spécial dans cet islam. Non, tu trouves rien de spécial. Pas connu le vrai islam. Non, tu n'as pas adoré Allah Ta'ala comme il se doit. D'ailleurs, tu n'as jamais goûté à la douceur de la foi. Toute personne qui rentre en islam, surtout Zahman, si c'était. Ensuite, niqab, je ne sais quoi, et ensuite, apostasie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne n'a jamais goûté à la douceur de la foi. C'est impossible qu'une personne goûte à la douceur de la foi et apostasie. C'est impossible qu'une personne goûte à la douceur de la foi et arrête la salat. C'est impossible qu'une personne goûte à la douceur de la foi et se dévoile si c'est une sœur. C'est impossible que de la foi zina. C'est impossible. Non. Donc, maintenant, quelqu'un va demander comment faire pour goûter à cette douceur de la foi. La réponse vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il t'a dit, il y a trois choses. Si tu les fais, mais tu dois faire les trois choses, pas une seule chose. Tu dois regrouper les trois. Quelles sont ces trois? La première. On va voir la première. Tayyib, je refais le hadith ici. Le fait, Azzawajal et son messager, tu les aimes plus que qui que soit d'autre. Tu dois aimer Allah Ta'ala et son messager plus que soit d'autre. Comment aimer Allah Ta'ala et son messager plus que quiconque d'autre? La preuve, si Allah Ta'ala et son messager me donnent un ordre et qui que soit d'autre me donne un ordre opposé à l'ordre d'Allah et de son messager, j'applique l'ordre d'Allah et de son messager. Non. Même si cet autre, c'est qui? C'est le président de la République, c'est mon père, c'est le roi, c'est je ne sais qui. Non. Ici, ça veut dire que j'ai Allah Ta'ala et son prophète plus que quiconque d'autre. Les preuves qu'on aime Allah Ta'ala et son messager plus que qui d'autre, on va les voir dans un cours, un cours yani, spécial. Je pense, Allah Ta'ala, que ce sera le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala. Deuxième chose, deuxième qualité que tu dois regrouper pour goûter la douceur de la foi, que lorsque tu aimes quelqu'un, tu ne l'aimes qu'en Allah Azzawajal. Si tu es un frère et que tu aimes un autre frère, tu ne dois l'aimer qu'Allah Azzawajal. Si tu es une sœur et tu vas aimer une autre sœur, non, tu ne dois l'aimer qu'en Allah Azzawajal. Et ça, ce n'est pas facile. ce n'est pas une chose facile, sauf pour les sincères, sauf pour ceux et celles qui vraiment veulent le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, tu trouves que quelqu'un aime facilement un frère s'il est mashallah et s'il est riche. Il n'aime pas un autre frère s'il ne travaille pas ou est pauvre ou est dans le besoin ou bien il est nécessiteux. Naam. Et l'autre, elle aime cette sœur, elle va chez elle souvent, etc. Pourquoi? Parce qu'elle est mashallah, elle est riche, elle a même la piscine chez elle. Elle a la piscine. Elle est riche, elle est mashallah. Donc elle est aimée, celle-là, je l'aime. Mais je vais pas chez ma sœur, l'autre, qui a juste un studio et qui est dans les ennuis, des ennuis financiers. Celle-là, ça m'intéresse pas beaucoup. Celle qui m'intéresse, c'est l'autre, mashallah, qui a tout chez elle. Naam. Dans ce cas, tu ne sentiras jamais la douce la foi. Pourquoi? Car si tu veux la ressentir, quand tu aimes quelqu'un, tu ne parles en Allah Azzawajal. C'est pour cela que il est bien, yani, de ne pas beaucoup demander quand tu connais quelqu'un nouveau, tu connais une nouvelle, de ne pas demander yani, qu'est-ce que tu travailles, etc. Naam. Parce que ça peut changer les rapports. Naam. Donc s'il est médecin ou mashallah, je vais faire sa connaissance, je vais faire de lui un ami intime. Mais s'il est juste quelqu'un qui un jour travaille pas, je ne vais pas l'aimer. C'est pas comme ça. Naam. Je t'aime à cause de ton dîn. Je t'ai vu, comment tu insistes pour prier à l'heure, comment tu insistes pour apprendre le dîn, comment tu n'aimes pas les gens qui mentent. Tu n'aimes pas les gens qui font les grands péchés. Tu n'aimes pas les bid'a. Tu es tout le temps en train de courir à droite à gauche pour essayer de propager la da'wa, pour essayer d'expliquer le minhaj. Non, donc, je t'aime à cause de cela. Et la preuve maintenant que je t'aime à cause de cela, en Allah Azzawajal, c'est que, c'est quoi? Quelle est la preuve? C'est que si jamais tu commences à t'éloigner d'Allah Azzawajal, donc, je commence à te détester. Même si tu es quoi? Si tu es le plus riche du monde. Alors que, si je t'avais aimé pas pour Allah, même si tu fais les plus grands péchés du monde, je toujours. Pourquoi? J'aime ton poste. Tu es, mashallah, un grand directeur. J'aime tes voitures et ton piston. Donc voilà la preuve que je t'aime pas pour Allah Azzawajal. Mais si je t'avais aimé pour Allah Subhanahu wa Azzawajal, le jour où j'avais su, tu fais maintenant la zina, ou alors tu bois l'alcool, t'aurais détesté. Détesté pour Allah Azzawajal. Car Allah n'aime pas celui qui fait la zina, n'aime pas celui qui boit l'alcool. Mais pas pour toi. Quand je dis je vais te détester, ça n'empêche pas bien sûr que je vais te faire la da'wa. Je vais donner la nasiha en tête à tête et je vais yani pleurer à cause de t'avoir perdu. Naam. La troisième qualité, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'on doit regrouper trois choses pour yani, pour goûter à la douceur de la foi. La troisième, il a dit, et le fait que tu doives détester de retourner à la mécréance après qu'Allah Azzawajal t'ait sauvé, exactement comme tu détestes d'être jeté dans le feu. Qui accepte qu'on le prenne et qu'on le jette dans le feu. Surtout si on le jette dans le feu de l'au-delà. Si Allah Ta'ala te dit, tu aimes que je te jette dans le feu? Tu aimes que j'ordonne aux anges de jeter dans le feu? Qui aime? Personne n'aime. Tu détestes cela. Donc tu dois aussi détester maintenant que Allah Azzawajal t'ait guidé dans cette voie. Alors qu'il y a des millions qui n'ont pas guidé. Il t'a choisi. Toi, le faible. X, Y, toi, le faible qui ne vaut rien. Et il t'a guidé, subhanallah, pour t'avoir guidé, il t'a aimé, subhanallah, t'a guidé et t'a fait sortir des ténèbres, t'a fait sortir des ténèbres, naam, et des grandes bid'a et des grands péchés, naam, tu étais dans un gouffre, tu étais dans un puits, tu étais dans un tunnel sombre. Maintenant, Allah Azzawajal t'a guidé, te voilà sur le sirat al-mustaqim, mashallah. Maintenant, tu adores Allah, tu suis son livre, tu suis la sunna, mashallah. Tu te sens mashallah. Alors maintenant, quoi? À chaque fois que tu penses à l'état dans lequel tu étais, dans la mécréance et les grands péchés, le jahiliya, quoi? Tu dois remercier Allah Azzawajal
et détester que tu reviennes. Pourquoi? Car si maintenant, yani, quand tu penses à la mécréance, tu sens du plaisir et tu dis, ah, j'étais bien, il y avait tout, tout était permis. Certains disent comme ça. Tu dis, hein, quand même, c'était tout permis, etc. Maintenant, yani, qaddar Allah, yani, rien n'est permis, c'est tout. Qu'est-ce qui était permis? C'est permis de le chemin du shaitan qui était permis. Qu'est-ce qui était permis? C'est permis, yani, Allah Ta'ala, maintenant, quand il t'a guidé, yani, il t'a interdit des choses qui sont bien. Il y a des choses qui sont bien, il te les a interdites. C'est pas possible. Donc tu penses en Allah des choses qui sont pas bien. Donc tu connais pas Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu connaissais, tu aurais su que jamais il ne t'interdit une chose qui est dans tes intérêts. Même si pour toi, tu crois qu'elle est dans tes intérêts, elle ne l'est pas. Il t'a créé, il sait mieux que toi. S'il t'a interdit cette chose, ça veut dire ça veut dire que ou bien elle ne contient que des mots et des malfaits. Ou bien ces mots et ces malfaits sont plus grands que les bienfaits et les intérêts que tu vois en elle, que tu vois toi. Donc, quiconque veut goûter de la foi et quiconque veut sentir qu'il vit dans le paradis et qui veut sentir qu'il a un paradis dans son cœur, qu'il fasse des efforts pour regrouper ces trois choses à la fois. Aimer Allah Ta'ala et son messager plus que quiconque. Je n'aime quelqu'un que pour Allah. Je n'aime pas quelqu'un parce que il a X ou Y ou il a tel et tel intérêt. Non, je ne l'aime que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisièmement, je déteste de retourner à la mécréance après que Allah Ta'ala m'ait sauvé. Cheikh Fawzan dit, Hafidhahullah. Donc l'amour du prophète suit directement l'amour d'Allah Azzawajal et l'accompagne toujours. À propos de l'amour du messager sallallahu alayhi wa sallam et de l'obligation de le faire passer à l'amour de tout bien-aimé à l'exception d'Allah. Je répète, à propos de l'amour du messager alayhi wa sallam et de l'obligation de le faire passer avant l'amour de tout bien-aimé à l'exception d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ووالده والناس أجمعين. Personne ne croira en Allah Azza wa Jal jusqu'à ce que je sois plus aimé pour lui que son enfant, ses parents et tous les gens. Personne ne croira en Allah Azza wa Jal. Ici la croyance parfaite. Jamais il n'aura la croyance parfaite jusqu'à ce qu'il ressente la douceur de la foi, jusqu'à ce que je sois plus aimé pour lui que son enfant, ses parents et tous les gens. Naam. Il a commencé par son enfant, c'est le plus important. Naam. Ensuite, il y a des parents. Preuve, si on a juste un peu d'argent ou un peu de nourriture et on doit nourrir ou bien son enfant ou bien ses parents, par qui on commence? On commence par son nom. Naam, c'est ça l'obligé. C'est pour ça qu'il a été cité en premier. Donc, mon enfant, je dois aimer le prophète Aslam plus que mon enfant, plus que mes parents et plus que tous les gens. Tous les gens. Rentre dans tous les gens, yani, tous les gens, il n'y a aucune exception. Tous les gens. Aucune personne, je ne dois l'aimer plus que yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été même rapporté que le croyant doit aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Non seulement et tous les gens, mais plus que lui-même. Plus que yani, lui-même. Soi-même. D'après un hadith que Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu a dit, il a dit: Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi. Faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam: Walladhi nafsi biyadihi. الذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن أحب إلي من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر، الآن يا عمر. دونك دابخي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى قال دي اون فوا بخي او سلام او مي الله tu es pour moi plus aimé que tout à part moi-même au messager que toi le plus aimé نعم que toute chose sauf excepté moi-même excepté moi نعم tu es le plus aimé tu es le plus aimé mais bien sûr excepté moi. Alors le prophète Hassan lui a dit, par celui, c'est pas par celui, par celui qui détient mon âme, c'est-à-dire je jure par Allah Ta'ala que tu ne seras parfaitement croyant jusqu'à ce que je sois pour toi plus aimé que toi-même. Tu m'as entendu à Omar al-Khattab, tu m'as entendu. Je jure par Allah Ta'ala que tu ne seras vraiment croyant jusqu'à ce que je sois pour toi plus aimé que toi-même. Tu dois m'aimer plus que tu ne t'aimes toi-même. Alors Omar radiallahu ta'ala a dit maintenant tu es pour moi plus aimé que moi-même. Ya Rasulallah, maintenant je t'apprends que tu es pour moi plus aimé que moi-même. Alors le prophète lui a répondu: c'est maintenant ô Omar que tu as parfait ta foi. Alors maintenant Omar, sache que tu as perfectionné ta foi. Alors sache maintenant Omar que ta foi a atteint Masha'Allah la perfection. Donc Omar radiallahu ta'ala nous croyait que yani, ça suffisait d'aimer le prophète sallam plus que tout le monde sauf soi-même. Il lui a dit non, même toi ton nefs, ton âme qui est entre dans ton corps, tu dois m'aimer plus qu'elle et plus que toi-même. Alors Omar a dit, puisque c'est comme ça ya Rasulallah, sache que pour moi, tu es plus aimé que moi-même. Il lui a dit, alors maintenant, ya Omar, maintenant, tu as atteint la perfection de la foi. Bi'idnillahi ta'ala. Cheikh dit, hafidahullah. Cheikh Fawzan, hafidahullah ta'ala dit, ceci indique que l'amour du messager, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, est une obligation et vient à la tête de tout autre amour, excepté celui d'Allah. En effet, l'amour du prophète alayhi salam suit et accompagne toujours celui d'Allah. Car c'est un amour en Allah et pour Allah azza wa jal. Il augmente lorsque l'amour d'Allah azza wa jal augmente dans le cœur du croyant et diminue lorsque l'amour en lui diminue. Et celui qui aime Allah azza wa jal aime en lui et pour lui. Naam. Donc nous le prophète alayhi salam, pourquoi on l'aime? Naam. On ne l'aime pas, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin, parce qu'il s'appelle Muhammad et parce que c'est le fils de Abdullah et d'une certaine femme qui s'appelle Amina. Non, on l'aime parce que c'est le messager d'Allah que Allah Ta'ala a envoyé et nous a dit il faut le suivre. Vous avez compris? On l'aime parce que c'est l'envoyé d'Allah et parce que Allah Ta'ala t'a dit de t'aimer, de l'aimer afin de le suivre. Donc, tu l'aimes, ton amour pour le prophète Aslam, c'est l'amour d'Allah qui te pousse à l'aimer. C'est pour ça, plus tu aimes Allah Azza wa Jal, plus tu aimes le prophète alayhi sallam. Et plus l'amour d'Allah diminue ton cœur, plus aussi l'amour du prophète Aslam diminue de ton cœur. En outre, l'amour du prophète alayhi sallam, dit Cheikh Fawzan, hafidahullah ta'ala, implique qu'on doit l'honorer, le respecter, le suivre, faire prévaloir sa parole sur celle des autres créatures et honorer sa sunnah. Je répète, l'amour du prophète alayhi salatu wassalam implique qu'on doit l'honorer, le respecter, le suivre, faire prévaloir sa parole sur celle des autres créatures et honorer sa sunnah. Ça me rappelle les ikhwan muflisun, qu'on appelle Ikhwan Muslimoun, les frères musulmans. Quand il a dit ici, ça implique qu'on doit l'honorer, le respecter, le suivre et faire prévaloir sa parole sur celle des autres créatures. Ceux-là ne connaissent rien sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est un peu la sira. Les frères musulmans, qu'est-ce qu'ils. Leurs études, c'est quoi? C'est pas le fiqh ou la aqida. Il aime lire, ils aiment lire là, comment le prophète a fait les batailles, comment ceci, comment cela. Non. Mais ils ne connaissent rien de lui dans la sharia, subhanallah al-adhim. Et le fait de le respecter, le fait de l'honorer, le fait de propager sa da'wah, non, ses paroles, prévaloir sa parole, tout ça, ils ne le connaissent pas. Non. Et celui qui n'a pas la chose, il ne peut pas te la donner. Comme on dit en arabe, faqidu shay, il a yu'ti. Non. Lui, il n'a pas la chose. Comment il peut te la donner? Eux, de mettre un ramis et de marcher avec dans la rue. Non. Te dis non, moi. Enfin, ils se sentent complexés. Complexés. Non. Par contre, s'il met la cravate et le costume, il n'est pas complexé. Le costume, des kofars, non. Ça, c'est un signe de l'émancipation, mashallah. Et même, il va rire de toi. Il te dit, toi, tu es toujours avec le ramis et la barbe. Et tu es loin. Comme ça, Annie, tu donnes une mauvaise, une mauvaise image sur l'islam, il te dit. Les gens, yani, ont avancé maintenant, c'est la pointe de la technologie. Et toi, tu es toujours avec le khamis. Non. Et toi avec ta cravate et ton costume, tu as fait quoi? Non. Tu as fait quoi si ce n'est, ce qu'on dit en arabe, ce qu'on appelle un meyat al-islam. Non. L'islam, tu l'as amoché aux yeux des gens. Pourquoi? Il n'y a plus d'islam. Tu as fondu entre les kuffars et les mubtadi'a et ceux qui font les péchés. Il n'y a aucune différence entre toi et eux. Tu es au milieu d'eux, n'am, ni tu leur apprends la sunna, ni tu prévaloir la sunna du prophète, rien. Tu es au milieu, tu fonds, tu es comme eux. Moi, avec le khamis et la barbe, au moins, si je n'ai pas de rime, je n'ai pas de science, je n'ai pas ceci, ils voient que je ne suis pas comme eux. Ils disent, quiconque me voit, te voit, dit, regarde, celui-là, il n'est pas comme les autres. Regarde, ils sont tous habillés de la même façon, sauf lui. Lui, c'est pas comme eux. Mais toi, non. Toi, tu as fondu. Naam, tu es là à faire, à faire tout ce qu'ils font, l'ayadu billah. Al-Muhim, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit, tout amour et considération envers un être humain est permise. Tout amour et considération envers un être humain est permise conformément à l'amour d'Allah et sa vénération. Comme l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa considération, car ils font partie du parfait amour de celui qui l'a envoyé et de sa vénération. En effet, sa communauté l'aime, aime le prophète alayhi wa sallam, du fait qu'Allah azza wa jalla l'aime et l'honore. Parce qu'Allah Ta'ala l'honore. Cet amour est donc un amour pour Allah et une conséquence de l'amour d'Allah Azza wa Jal. C'est toujours Ibn al-Qayyim qui dit Allah Azza wa Jal a enveloppé le prophète de grandeur à tel point que personne n'était aussi considéré et respecté que ne l'était l'envoyé alayhi salam auprès des compagnons radiyallahu. Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu a dit après sa conversion, écoutez ce qu'il a dit. Je ne détestais personne autant que lui, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu wasalam. Et lorsque je suis devenu musulman, personne n'était plus aimé et honorable à mes yeux que lui. Subhanallah al-Azim. Jamais je détestais quelqu'un autant que le prophète sallallahu alayhi wasalam autrefois. Et lorsque je suis devenu musulman, personne n'était plus aimé et honorable à mes yeux que lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, et si vous me demandez de le décrire, alayhi wa sallam, je n'en serai pas capable, car je le regardais jamais longuement par respect. Jamais je ne le regardais longuement par respect. Subhanallah al-Azim. Il le respectait au point que il ne pouvait pas, yani, rester comme ça, longuement, en train de le regarder. Non, ils avaient honte de lui et baissaient leur tête. Radiyallahu ta'ala anhum. Et Urwa ibn Mas'ud a dit aux Quraishites, radiyallahu ta'ala anhum, il a dit aux gens, par Allah, par Allah, je me suis rendu chez Kisra et Kaysar. Kisra, c'est Khosrow ou quelque chose comme ça. Le roi. Et Caïsar, c'est César. Et le reste des rois. Mais je n'ai jamais vu un roi vénéré par ses compagnons de la façon dont les compagnons de Mohammed le vénèrent. Le vénèrent. Par Allah, ils ne fixaient jamais le regard sur lui, par respect pour lui. Lorsqu'il crachait, son crachat ne tombait que sur la main de l'un d'entre eux, et qui est sur son visage et sa poitrine. Et lorsqu'il faisait ses ablutions, il faillit se battre pour l'eau restante de ses ablutions. Voir Ibn al-Qayyim Jalal al-Afham, page 120. Oh, j'en parle, Allah. Je me suis rendu chez Kisar, est-ce des rois? Mais je n'ai jamais vu un roi vénéré par ses compagnons de la façon dont les compagnons de Mohammed le vénèrent. Par Allah, il ne fixait jamais le regard sur lui, par respect pour lui. Lorsqu'il crachait, son crachat ne tombait que sur la main de l'un d'entre eux qui l'appliquait sur son visage et sa poitrine. Lorsqu'il faisait ses ablutions, il faillit se battre pour l'eau restante de ses ablutions. Jalal Afham d'Ibn al-Qayyim. Naam. Subhanallah al-Azim. Regardez, yani, comment que les Sahaba, radiyallahu ta'ala, à quel point ils aimaient le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Naam. Voilà, fin du cours, inshallah ta'ala, alhamdoulilah rabbil alamin. Le prochain cours, inshallah ta'ala, c'est la prohibition et l'interdiction d'exagérer dans son éloge, sallam. Mais avant cela, inshallah ta'ala, on va parler un peu de quelles sont les preuves qui montrent qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien qu'on ne l'aime pas. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
عفوا شيخ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Si vous pouvez nous dire rapidement quels seront les prochains chapitres afin qu'il n'y ait pas de questions en ce sens et donc les personnes patienteront. بارك الله فيكم. C'est une idée, dites-moi si c'est le cas ou si vous préférez quand même recevoir de telles questions.
Donc le grand chapitre aujourd'hui, c'est le cinquième. C'est ce que l'on doit croire à l'égard du messager, de sa famille, ses compagnons. On a vu maintenant une partie du premier sous-chapitre, car il y a six sous-chapitres. Le premier, l'obligation d'aimer le messager et de l'honorer. Ça, prochain cours, l'interdiction d'exagérer dans son éloge. Et l'autre cours, la mise en évidence de son statut. Deuxième sous-chapitre. L'obligation de lui obéir et de suivre son exemple. Troisième sous-chapitre, la légitimité de la prière et de la salutation sur lui. Quatrième sous-chapitre, les mérites de la famille du prophète et notre devoir envers eux, sans dépit ni excès. Cinquième sous-chapitre, les mérites de ses compagnons et l'opinion qui doit être adoptée à leur égard. L'attitude des gens de la sunna et de l'unité au sujet de ce qui s'est passé entre eux, comme guerre, etc. Sixième sous-chapitre, l'interdiction de proférer des injures à l'égard des compagnons et des imams de la guidée. Naam. Donc, s'il y a des questions en ce sens, vous les laissez, inshallah ta'ala, jusqu'à ce que yani, le cours soit fait, bi'ilnillahi ta'ala.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اسمح لي يا أخي مسلم، c'était juste pour faire part d'une remarque à Cheikh, si c'est possible, inshallah. Cheikh, si vous m'entendez. Cheikh, est-ce que vous êtes présent avec nous? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc c'est la remarque d'un frère, Jazahullah Khaira, qui souvent fait des remarques pertinentes, qu'Allah Azza wa Jal le récompense et récompense toutes les personnes présentes ici. Et qui vous a dit, Cheikh, et c'est aussi, il y a un autre frère aussi qui m'a dit la même chose. Il dit, Cheikh, il y a une question qui vous a été posée concernant un livre, Juz Amma, dans lequel il est écrit Ali, qu'il soit vénéré. Et beaucoup de personnes ont crié au scandale en disant que ce livre contient du shirk. Alors que le mot vénéré a aussi le sens éprouver un profond respect envers quelqu'un. Donc ce n'est pas qu'une adoration. Et dans la réponse, vous aviez dit, Cheikh, donc la solution serait alors d'enlever le mot vénéré, soit en l'effaçant avec une gomme, soit avec une lame, soit avec de la peinture ou autre. Parce qu'on a écrit, ça a enlevé le texte. Et pourtant, Allahu a'lam, Cheikh, ceci n'est pas nécessaire, donc vu le sens qui peut être donné aussi à vénérer, à savoir éprouver un profond respect envers quelqu'un. Il dit en plus, Cheikh, vous semblez avoir approuvé cela aujourd'hui en postant le texte suivant. Ô gens, par Allah, je me suis rendu chez Kisra et Kaysar, et le reste des rois. Mais je n'ai jamais vu un roi vénéré par ses compagnons de la façon dont les compagnons de Mohammed le vénèrent. Donc le fait que vous ayez mis ce texte, Cheikh, veut dire que vous êtes d'accord donc qu'il est permis d'utiliser le mot vénéré ou pas. Sachant qu'il est dit les compagnons le vénèrent. Et bien sûr, aucune personne ne dirait que les compagnons adoraient le prophète, alayhi salam. Donc le sens voulu ici est, ils éprouvaient du profond respect envers lui. Donc, Cheikh, si vous pouvez nous éclairer par rapport à cela, barakallahu fikum, Cheikh. Après, tfaddal, akhi muslim.
Donc, bismillahirrahmanirrahim, en fait, quand on m'a envoyé cela, il y a à peu près un mois, avant de répondre, j'avais quelques hésitations. J'avais quelques hésitations. Ensuite, j'ai cru comprendre. Je me suis dit peut-être que ce livre, par exemple, a été imprimé en Iran. Naam. Ce sont peut-être les chiites qui l'ont imprimé. Puisque Yani, spécialement, il parle de Ali, pas d'autres. Alors peut-être que vénérer ici, c'est dans le sens qu'on l'adore, on le vénère. C'est ce que j'ai pensé et cru. Ensuite, je ne vous cacherai pas que aujourd'hui, vers 15 h à peu près, de préparer le cours, ce cours, et je suis passé par le texte que le frère vient de citer maintenant et que j'ai cité tout à l'heure, comme quoi il vénère le prophète Islam. Je me suis dit donc, vénérer, ça ne veut pas dire automatiquement que c'est quelque chose de pas bien. On peut vénérer quelqu'un dans le sens de, yani, lui éprouver un grand respect. Non, ça je me suis dit tout à l'heure qu'on est le cours bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant, reste à voir le livre sur lequel on m'a posé la question. Voilà. Je pense, wallahu alam, je pense, moi je dis, hein, et vérifiez. Je pense que ici pour Ali, quand il dit que Allah ta'ala le vénère ou quelque chose comme ça, je pense que c'est la traduction de l'arabe de Karamallahu wajhahu. Wallahu ta'ala, je pense que c'est ce qu'ils veulent dire. Karamallahu wajhahu. Je pense, c'est pour cela que ce livre, il faut voir c'est quoi en arabe. Car c'est une traduction. Ils ont mis que Ali, que Allah ta'ala le vénère. Mais en arabe, qu'est-ce qui est écrit? C'est ça le plus important. Bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wallahu ta'ala alam, tfadhal. Et au barakallahu fik comment on dit, c'est pas comment on dit tenbih en français? Dites-moi tenbih en français, comment on dit tenbih? C'est pas la mise en garde, non. Mais tenbih, disons la remarque. Pour la remarque, jazallahu khairan. Tfadhal.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que le son est clair, inshallah? Donc, première question. Cheikh, hafizakum Allah, qu'Allah vous accorde sa satisfaction et le plus haut degré du Firdaus, ainsi que votre famille et tous les frères et sœurs présents ce soir sur la room. Amin. Vous avez parlé de la douceur de la foi. Je me demande si pleurer pour Allah par regret de ses péchés est une branche de la douceur de la foi. Car je pleure très souvent de cette dunya. Pourtant, je manque de rien, alhamdoulillah. Mais je voudrais quitter cette vie et avec une bonne fin en prosternation. Pouvez-vous me dire si cela fait partie de la douceur de la foi ou cela est juste de la tristesse? Barakallahu fikoum ya cheikh. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses avec vos cours. Hayakumullah. Tafadhal Cheikh.
Afouna, avant de te demander, car j'étais en train de lire autre chose, aussi je voudrais remarquer que on va pas faire le système des 20 questions. Non, c'est pour cela que c'est pas la peine de noter les questions. Tu poses des questions, quand je me sens fatigué, j'arrête, inshallah ta'ala. Donc j'étais en train de voir sur le un dictionnaire que j'ai sur téléphone, le verbe vénérer. Ils ont dit rendre un culte à un dieu, à un saint ou à des choses saintes ou sacrées. C'est aussi adorer. Ils ont dit sens figuré, dans le sens figuré, ils ont dit avoir un attachement ou un respect profond pour une personne. Avoir un attachement ou un respect profond pour une personne. Si c'est dans ce sens figuré, donc il y a, inshallah ta'ala, pas de problème. À condition que ça ne soit pas exclusivement pour Ali, radiyallahu ta'ala anhu. Sinon, ça devient le rafidisme, ou l'iyadu billah. Tayyib, fadlan, inshallah ta'ala, muslim, c'est quoi la question?
Donc je vous la répète, cher. Donc la personne dit, cher, hafizakumullah, Allah vous accorde sa satisfaction et le plus haut degré du Firdaous, ainsi qu'à votre famille et tous les frères et sœurs présents ce soir sur la room. Vous avez parlé de la douceur de la foi. Je me demande si pleurer pour Allah par regret de ses péchés est une branche de la douceur de la foi, car je pleure très souvent de cette dunya. Pourtant je manque de rien, walhamdulillah. Mais je voudrais quitter cette vie avec une bonne fin en prosternation. Pouvez-vous me dire si cela fait partie de la douceur de la foi ou cela est juste de la tristesse? Barakallahu fikoum ya cheikh. Wallahi, j'ai appris beaucoup de choses avec vos cours. Wahayakumullah. Tafadhal cheikh.
Je dis, Wallah subhanahu wa ta'ala, le fait de pleurer pour ses péchés, ça ne fait pas partie de la simple. Ça fait plutôt partie, inshallah ta'ala, de la foi. Ce n'est pas n'importe qui pleure pour ses péchés. Non. Il y en a même qui, lorsqu'ils pensent à leurs péchés, trouvent une certaine nostalgie et même un certain plaisir. Un certain regret d'être maintenant, d'avoir changé comme ça. Vous avez compris? Donc, le fait d'avoir le statut de pleurer en pensant à ses péchés, c'est vraiment une ni'ma d'Allah Azzawajal qu'il faut remercier pour que ça ne parte pas et que ça reste en la personne, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, ça me rappelle le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit, hadith authentique. Il a dit, وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ نَعَمْ كُفَّ لِسَانَكَ وَلِيَسَعْكَ أَمْسِكَ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَكِفَّ خَطِيئَتِكَ. Comme ça, il a dit, retiens que ta maison te suffise et pleure pour tes péchés. Donc, la sœur est en train d'expliquer ce hadith. Du moins, la partie où il a dit, pleure pour tes péchés. Pas que elle est en train de faire une chose, yani que le professeur m'a ordonné. Donc, par conséquent, ça rentre dans l'adoration et la douceur de la foi. Puisse Allah Azza wa Jal t'aider et nous aider à, et nous donner cette qualité, bi'idhnillahi ta'ala. Tafadhal.
Question suivante, question d'une sœur qui dit, cher, qu'Allah vous préserve. Est-ce que le fait de rêver à plusieurs reprises du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une preuve qu'on l'aime? Barakallahu fikoum. Tafadhal cher.
Non, je voudrais vous dire que yani, c'est vraiment une preuve, si on le voit comme ça souvent dans les rêves, et que yani, que on a un statut et que Allah subhanahu wa ta'ala est vraiment ravi de nous. Reste à savoir maintenant, est-ce que vraiment c'est lui dont on a rêvé, ou bien yani, par exemple un autre, ou bien aussi le shaitan, yani, qui joue comme ça des jeux, même si le prophète alayhi a dit que le shaitan ne pouvait pas se mettre à ma place, yani, dans le rêve. Il a dit quiconque m'a vu me verra dans la réalité. On dit c'est vrai,
Ce qu'a dit le prophète islam est vrai. Le shaitan ne peut pas venir dans la forme yani, et la taille et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il peut venir sous une autre personne et dire par exemple, je suis le prophète alayhi wa sallam. C'est pour cela que les salafs, quand on leur disait on a vu le prophète alayhi wa sallam dans le songe, ils disaient toujours décris-le nous, décris-le nous. Là, si la description est compatible avec ce qu'est vraiment le prophète islam, comment qu'il était, on va dire c'est lui. Mais si la description n'est pas la même, on dit que tu n'as pas vu lui, mais c'est le shaitan qui a joué. C'est comme ça, inchallah. C'est pour ça que les savants ont dit que celui qui veut le voir dans le songe doit vraiment le connaître. S'il ne le connaît pas, comme ça en face, il n'a jamais vécu avec lui, du moins qu'ils le connaissent d'après sa biographie, comment qu'il était, etc. Hein, pour le voir vraiment dans le rêve, bi'idhnillahi ta'ala. Inch'Allah ta'ala, que tu as vu le prophète, alayhi sallam, et que c'est un bon présage, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadhal.
Question suivante, question d'un frère qui dit Ahsanallahu ilaykum Cheikhana. Qu'Allah Ta'ala vous préserve et vous accorde le Firdaus. Le fait de se renseigner et de connaître les caractéristiques physiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam est-il un moyen et une cause pour l'aimer davantage? Si oui, pouvez-vous, min fadlikum, nous donner une description physique authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors d'un cours prochain? Barakallahu fikum wa hayyakumullah. Tfadal Cheikh.
Exactement et absolument comme a dit cette personne. Plus tu connais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son physique et aussi son caractère et ses qualités qu'il avait, plus tu vas l'aimer. C'est pour cela que celui qui dit moi j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, quand les gens de masse, tous ils disent j'aime le prophète alayhi wa sallam, mais il ne peut pas te donner une seule description de son physique par exemple. Tu lui dis est-ce qu'il avait les cheveux longs ou les cheveux courts? Les cheveux noirs? Ou les yeux noirs ou bien les yeux bleus, alayhi sallam, étaient grands de taille ou petits? Et ses cheveux étaient crépus ou bien raides, lisses? Il était large de taille? Non, ou là, ils n'ont pas de réponse. Plus tu le connais, plus tu vas et pour sa description, etc., il n'y a pas mieux qu'un livre qu'on appelle Shama'il Muhammadiyya, écrit par Tirmidhi, rahimahullah. Shama'il Muhammadiyya, écrit par Tirmidhi, qui parle du prophète islam, yani de tout. Comment qu'il mangeait, comment qu'il buvait, comment qu'il priait, comment ceci, comment cela. Ah, demande à Allah le Tout-Puissant de nous aider à faire ce livre très bientôt, bi'idhnillahi ta'ala.
Question suivante, question d'une sœur. Cher, est-ce que le fait qu'un individu commette de nombreux péchés, grands ou petits, à répétition, tout en connaissance de cause, et que le kuffar ait le dessus sur lui dans de nombreuses choses, montre que celui-ci n'est qu'un musulman sans avoir atteint le degré de la foi. Toi, Dachir.
La question pour moi n'est pas claire. Je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il veut dire à la fin, par la fin. Tfadlal.
Ah, je la répète, cher. Est-ce que le fait qu'un individu commette de nombreux péchés, grands ou petits, à répétition tout en connaissance de cause, et que le kuffar ait le dessus sur lui dans de nombreuses choses, montre que celui-ci n'est qu'un musulman sans avoir atteint le degré de la foi. Allahu alam, cher, si elle veut dire par là, et on lui demande d'éclaircir ça en PV, si elle veut dire par là que certains kuffars ont un meilleur comportement que lui, en fait, dans certaines choses, malgré que lui soit musulman. Allahu alam. Tfadal, cher. Non, mais c'est pas ça, Tfadar, Ibn Mohamed.
الله أعلم شيخ، سي بار رابور او فيرسي لما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ici Allah عز وجل donc accorde une voie à un kafir contre un musulman, c'est qu'il n'est pas mu'min par rapport à ce verset. Allahu a'lam, c'est ce que j'ai compris.
Non, c'est ce que j'ai compris. Mais quand il a dit à la fin que c'est muslim, qui je n'ai pas compris. Je crois qu'il veut dire que yani, il est seulement musulman et qu'il n'est pas yani, croyant muslim. Muslim, mu'min et muhsin, d'après le hadith de Jibril. Donc je dis à la personne vrai, naam, plus la personne fait des péchés, surtout les gris, enfin les grands, et sans faire de tauba, la personne yani, dévie du chemin, bien sûr, et la colère de l'Azzawajal grandit contre lui, et l'Azzawajal le laisse seul avec son shaitan, et ses shahawat et ses tentations, et bien sûr, et dans ce cas, les kuffar vont avoir le dessus sur lui parce que l'aide d'Allah Ta'ala n'existe plus, il l'a délaissé seul avec son shaitan et ses passions, etc. Maintenant, donc les kuffar vont quoi? Vont yani, avoir le dessus sur lui, bi'idhnillahi Ta'ala. Quand elle croyante et elle tient Allah Subhanahu wa Ta'ala, elle est fort, elle est sincère, elle veut s'accrocher au maximum, Allah Ta'ala ne donne pas au kuffar le dessus sur cette personne. Bi'ilnillahi Ta'ala. Non, qu'a dit cette personne. Tfadl.
Question suivante. Question d'une sœur. Est-il permis de raconter son passé?
Afwan, c'est juste pour ne pas changer de sujet. Voilà le verset, inshallah ta'ala, qui confirme cela. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان لنا نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. Voilà le sujet, voilà le témoin. فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. Voici le témoin du cours, c'est la dernière phrase. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, que je mets maintenant en français, la fin, et jamais, lisez la dernière phrase, et jamais Allah ne donnera une voix aux mécréants contre les, et jamais Allah une voix aux mécréants contre les croyants. Donc si les mécréants yani, ont une voix sur toi, ils ont le dessus sur toi, ça veut dire que tu as un problème dans ta croyance. Si tu es un vrai croyant, c'est toi qui domineras les mécréants bi'idhnillahi ta'ala. Tfadl muslim, musmah li.
Mafimashki Cheikh. Je vous répète inchallah la question de la sœur qui dit: est-il permis de raconter son passé, par exemple les choses haram qu'on faisait avant d'être guidé, pour montrer la grâce d'Allah sur soi et encourager les autres à faire des efforts? Mubarak Allah fekoum. Tfadl Cheikh.
Si la personne connaît la personne, là, lui rappelle que voilà comment j'étais, Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdoulilah, yani m'a guidé. Si la personne n'est pas connue de cette âme, c'est mieux pour elle de ne pas citer ces choses, car même en voulant rappeler les choses, etc., et faire un rappel, yani, il y en a ceux qui vont avoir un mauvais avis. Et dire, subhanallah, dans le cœur, et dire, subhanallah, moi je n'aurais jamais cru que cette personne, par exemple, ait fumé de la drogue, etc. Donc, on peut yani, parler sans se citer. On peut dire, il y a des gens qui étaient ceci, cela, et Allah Ta'ala leur a fait, alhamdoulilah, leur a donné la guidée, les a guidés, etc. Mais si toutefois, la personne a dit cela, et que vraiment, son but c'était juste yani, d'encourager et de ne pas yani, c'était pas pour citer les péchés, peut-être que yani, ce n'est pas, il n'y a pas de grand mal en cela, mais de préférence elle ne cite pas et elle cite d'autres personnes à sa place. Regardez le hadith dans Sahih al-Bukhari qu'un homme est venu est allé quoi, celui qui a tué 99 personnes.
Ensuite, qu'est-ce qu'il a il est allé dire à un autre savant? Il lui a dit, il a tué 99 personnes. Est-ce qu'il a tauba? Et il ne lui a pas dit, j'ai tué 99. Il lui a dit, il a tué 99 personnes. Est-ce qu'il a tauba? De cela, les savants ont pris que, de préférence, yani, on ne montre pas ce qu'on a fait. On ne montre pas surtout que Allah Ta'ala a pardonné. Wallahu Ta'ala a'lam. Tfadlal.
Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum, cher. Question sur la Aqidah, les noms d'Allah Azawajal. Le sanctifier. La définition en français de sanctifier veut dire rendre saint. Pouvez-vous, min fadlikum, m'aider à comprendre la signification de ce nom, sachant que le sens rapproché en français est beaucoup employé dans le christianisme, étant une ancienne convertie. Cela me donne beaucoup de choubouhat. Barakallahu fikoum. Wa ahsanallahu ilaykoum, cher. Tfadal, cher.
En effet, je ne peux pas lui répondre, Afwan, jusqu'à ce qu'elle me donne le nom en arabe, comment qu'il s'appelle. Mousseline, tu as dit Soubouh. Est-ce que tu es sûr? Mousseline, ah voilà, tu as copié. Une seconde, dans une seconde. Taïb, est-ce que vous m'entendez? Taïb, pas cité. La sœur n'a pas cité quels sont les choubouhettes, les ambiguïtés que lui donne ce nom. Quelles sont les ambiguïtés que lui donne ce nom? Vous savez que Sabaha, quand on l'a, par exemple, ça veut dire que yani, je refonde Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui yani, n'est pas conforme à lui, tous les défauts, toutes les mauvaises choses, hein, quand tu dis subhanallah. Par exemple, eux, quand ils disent qu'Allah Ta'ala a une épouse, il dit Subhanallah. Ils disent Allah Ta'ala a un enfant, il dit Subhanallah. Non, c'est pas vrai, Allah Subhanahu wa Ta'ala n'a pas ces choses-là. Donc, Allah Azzawajal, c'est bouh. Est-ce que vous avez entendu la réponse, Inch'Allah? Est-ce que vous avez entendu la réponse? C'est étonnant. C'est étonnant. Et maintenant, est-ce que vous m'entendez? Maintenant, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Je disais. Nous, quand on dit Subhanallah, Subhanallah, ça veut dire on éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala tous les défauts. Si quelqu'un dit qu'Allah ta'ala a une épouse, on dit Subhanallah. Allah ta'ala mattakhadha min sahiba. Si quelqu'un dit Allah ta'ala un enfant, on dit Subhanallah. C'est pas vrai, tu es un menteur. Subhanallah, ça veut dire éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala tous les défauts, tout ce qui lui convient pas. Et Subuh, donc, c'est un des noms d'Allah Azzawajal, comme quoi, pourquoi il s'appelle Subur, comme quoi ces créatures lui fassent le tesbih. Ces créatures, même ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, lui fassent le tesbih. Et loin de lui tout défaut. C'est pour ça que c'est lui Subur. Non, parce que ces créatures lui font le tesbih. Moi, je ne suis pas Subur parce que on ne dit pas Subhan Flan, Subhan Chalabi. Et on dit Subhanallah, c'est lui le Subuh, c'est lui auquel les gens font le tesbih, bi'idhnillahi ta'ala. Voilà pourquoi il s'appelle Subuh.
Question suivante, cher. Assalamu alaikum, cher. Donc la personne, chère la sœur, Dis que la réponse est claire et qu'elle est complète. Barakallahu fikoum. Question suivante. Ahsanallahu ilaykoum, cher. Comment sait-on si on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que nous-mêmes et plus que toute autre personne? Comment peut-on mesurer cela? Wahayakum Allah. Tfadal, cher.
Inch'Allah ta'ala, que ce soit le prochain cours, mais m'allige par exemple de donner un exemple simple, par exemple. Par exemple, nous les hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime qu'on soit avec la barbe, ça. Et toi, des fois, ou alors moi, je m'aime sans barbe. Je me suis dit, sans barbe, je suis mieux. Je fais plus jeune. Je suis plus beau. Et les gens, etc. Cela, je délaisse cette chose et je vais laisser la barbe. Alors que, yani, si c'est je préfère être sans barbe. Mais maintenant, je laisse la barbe à cause du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une preuve que je l'aime plus que moi-même. Car si c'était sur moi-même, je serais resté, je serais plus à l'aise et plus beau, etc. Mais maintenant que j'ai laissé la barbe à contre ce que veut mon cœur, c'est une preuve que je fais ça à cause du prophète, c'est une preuve que vraiment je l'aime et que je l'aime plus que moi-même, bi-idhnillahi ta'ala. Tfadhal.
Question suivante. Le frère dit, Allah vous récompense, cher. Cher, que répondre aux personnes qui vous disent, pour ne pas appliquer la sunna comme la barbe ou quelque chose comme ça, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc s'il était encore vivant, à l'heure d'aujourd'hui, il se serait adapté à notre époque et n'aurait pas appliqué beaucoup de sunna. Astaghfirullah.
Ah, celui qui dit comme ça, c'est très grave. Celui qui dit comme ça, c'est très grave. Et pourquoi c'est très grave? Car il a fait deux grandes choses. La première, il a parlé invisible. Il a parlé dans quelque chose qui ne s'est pas passé. Si elle va se passer, voilà comment qu'elle va se passer. C'est très grave. Selon Allah Ta'ala, c'est. Et la deuxième, vous m'entendez pas? Est-ce que vous m'entendez? Et la deuxième, je dis, il pourrait avoir sur le prophète, sur le Allah, alayhi wa sallam, comme a dit quelqu'un ici, a dit quelqu'un, l'un des chefs, ou plutôt le chef, le grand chef des frères musulmans ici d'Algérie. Il est mort quelques années. Avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Parmi les choses qu'il a dites, et ce que disent les frères musulmans qui n'ont ni science ni rien, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était vivant de nos jours, il aurait mis le costume et la barbe. Sallallahu alayhi wa sallam. Kabura kalimatan takhruju min afwahihim in yaqulu inna illa kadhiba. Subhanallah al-azim. Si le prophète alayhi wa sallam était vivant de nos jours, il aurait mis la cravate. Et moi, qu'est-ce que j'ai dit? La barbe, afwan, afwan. Je voulais dire la cravate et le costume. Là, là. Smahli. Il a dit, si le prophète alayhi wa sallam était vivant, il aurait mis et le costume de nos jours. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Donc, je dis à ce frère ou là, à ceux qui disent comme ça ou là, attention, attention. Vous dites des choses très graves. Attention, vous dites des choses très graves. Attention, vous dites des choses très graves. Vous parlez sur l'invisible, l'avenir, des choses que vous ne connaissez pas. Et vous risquez de mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui ment sur lui, il a vraiment fait un très très grand péché. Qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Tfadhal.
Question suivante, cher. Question d'une sœur. Qu'Allah Azzawajal vous guérisse et vous récompense, cher, ainsi qu'à tous les musulmans. Amen. Ma question est peut-être bête, mais je ne comprends pas quelle est exactement la différence entre aimer pour Allah et aimer à Allah. Vous distinguez bien les deux façons d'aimer à chaque fois, mais je ne vois pas la différence. Barakallahu fikoum. fatwa d'Al-Sheikh.
Moi, personnellement, je ne vois pas une grande différence. À part que Allah Ta'ala alam, que aimer pour Allah. Non, je peux aimer, par exemple, une chose. Non, pour Allah, yani, parce que je l'aime, donc je vais yani, faire telle et telle chose, ou égorger un mouton, ou je ne sais pas quoi. Mais c'est pour des personnes. J'aime cette personne en Allah Azzawajal. Je déteste cette personne en Allah. J'aime en Allah, je déteste en Allah. C'est Wallahu alam pour les personnes. Aimer pour Allah, c'est faire des choses pour Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, Wallahu alam, c'est ce qui me paraît. Sinon, il ne me paraît pas qu'il y a une grande différence. Wallahu ta'ala alam.
Alors, avant la question suivante, Akhi Fawzi, est-ce que tu es là, Inch'Allah? Non, mais il me reste quelques questions sur la Aqidah. Allahu Alam, quand le cheikh s'arrêtera, donc par mesure de sécurité, récupère quelques questions d'ordre général, min fadlik. Barakallahu fik. Donc, question suivante, cheikh, question d'un frère. Cheikh, qu'Allah Ta'ala vous récompense. Vous avez dit que les compagnons vénérer le prophète. Quel est le sens du mot vénérer? Car en français, c'est à peu près le même sens qu'adorer. Veuillez nous éclaircir, Barakallahu fikoum. Donc c'est une réponse qui a été apportée tout à l'heure. Tfadal cher.
Ah, il y avait des coupures, j'ai pas bien entendu la question. J'ai pas bien entendu la question. Tfadlal.
Alors, je vous la répète, cher. Donc le frère dit: Qu'Allah Ta'ala vous récompense, vous avez dit que les compagnons vénéraient le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quel est le sens du mot vénérer? Car en français, c'est à peu près le même sens qu'adorer. Veuillez nous éclaircir. Barakallahu fikoum. Tfadashir.
Si je vais expliquer ici qu'est-ce que ça veut dire vénérer, je vais l'expliquer en arabe, c'est sûr. Non, yani, c'est difficile d'expliquer en français. Vénérer ici, c'est la traduction du mot en arabe. Yu'azzim. Naam, le grand respect. Vraiment respecter. Yani, le maximum du respect. Naam. C'est ça. Yani, Yu'azzim l'insan. Je le vénère. Je lui donne vraiment yani, le statut qu'il a. Naam. Voilà ce que ça veut dire ici, vénérer. Ça n'a rien à voir avec l'adoration. Bi'idhnillahi ta'ala.
Question suivante, cher. Question d'un frère. Hafizakum Allah. J'ai un frère qui est tabliri. Wallah al-musta'an. Et j'ai essayé de lui faire nasiha récemment. Il est plein de choubouhat. Il m'a dit des choses qui m'inquiètent, telles que le tawassul est autorisé avec certains pieux morts ou avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a dit également que le soufisme existe depuis l'époque des Sahaba et que cela s'appelle le tasawwuf. Je lui ai apporté quelques preuves, mais il ne semble pas vouloir s'y attacher. Pourriez-vous me conseiller et le conseiller pour éviter les polémiques inutiles et des égarements? Barakallahu fikoum wa jazakumullahu khairan. Tfadal cheikh.
Qu'a dit le frère à la dernière phrase? Il a dit, pouvez-vous me conseiller et qu'est-ce qu'il y a après? Et tfadlal.
Non, mais il a dit, pourriez-vous me conseiller et le conseiller pour éviter les polémiques inutiles et des égarements. Tfadal cheikh.
Est-ce que je dois comprendre que le frère est présent? C'est-à-dire le tabliri, est-ce qu'il est avec nous?
Non, chérie, il n'est pas là.
Donc c'est pas la peine de le conseiller. Je dis Allah subhanahu wa ta'ala à ce frère, à son frère, son petit frère ou son grand qui est avec nous, bi'idhnillahi ta'ala, awalan. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala de t'avoir guidé, de nous avoir guidés tous. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ont comprise les salaf bi-idhnillahi ta'ala.
et non pas comme l'ont yani les sectes égarées. Je te dis donc, mon frère et mon fils, tu vas avoir yani du travail bi'idhnillahi ta'ala. Ce n'est pas facile un tabliri de le faire sortir facilement en s'asseyant avec lui une demi-heure ou là un quart d'heure ou là en lui ramenant quelques preuves. Non. Parce que le tabliri, c'est quelqu'un, comme toutes les autres sectes qui sont pas sur le vrai minhaj, c'est quelqu'un qui s'est déjà rempli le cœur de choses fausses et d'ambiguïté. Alors toi maintenant, quand tu lui ramènes la vérité et la lumière, il ne peut pas l'accepter. Il n'y a pas de place dans son cœur à cette lumière, à cette vérité. Donc, il faudrait qu'il sorte ce qu'il a d'abord dans le cœur. Il faudrait qu'il vomisse. Il faudrait qu'il vomisse, tout ce qu'il a dans le cœur. Comme bid'a, comme ambiguïté, comme obscurité, comme, pour ensuite faire rentrer la lumière, bi'idhna subhanahu wa ta'ala. Donc ce frère, inshallah ta'ala, il faut patienter avec lui. Il faut que tu lises beaucoup, yani, quelles sont les fautes des tablighis, c'est quoi leur minhaj, ça se trouve, ça existe dans les sites. Il y a certains sites, il y a même des fichiers spécialement sur les tablighis et des choses comme ça. Les ikhwan, des fichiers spécialement sur eux. Et la différence entre le sunni, salafi et le tablighi. Et quand tu lis bien leurs fautes, tu connais bien leur déviance, tu peux parler avec lui. Et lui, qu'il est dans le faux, qu'il fait du shirk, qu'il fait de la bid'a, que les salafs n'ont pas fait ceci, et que ce sont des inventions du shaitan, etc. etc. C'est pour cela que je te demande de patienter avec lui et d'aller, inshallah ta'ala, doucement, doucement, et de faire beaucoup de doigts, de faire beaucoup de doigts, et à chaque fois de lui montrer une chose, deux choses, jusqu'à ce que, si Allah subhanahu wa ta'ala lui veut la guider, il le guidera bi'idhnillah ta'ala. Si Allah ta'ala ne lui veut pas la guider, tu auras fait ce que doit faire bi'idhnillah ta'ala. Donc, inshallah ta'ala, c'était la dernière question. Je m'arrête ici. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته